énergie renouvelable,
des applications,
santé publique,
eau potable,
environnement médiatique,
développement durable,
technologie,
écologie,
économie,
droits humains,
question d'éthique,
respect de la
politique internationale, biodiversité,
pollution, paix.
Parce que pour faire avancer les idées, il faut les brasser. Cette semaine à Delirium Environnemental pour vous divertir, mais surtout nous l'espérons vous informer. On fait une belle revue de presse, une belle revue de l'actualité en environnement. Quelques bonnes raisons de s'insurger, en voulez-vous? En voilà. On vous parle d'exploitation d'eau, de redevances, on vous parle de mines, on vous parle des monts Otiche, puis de plein d'autres choses, bien entendu. Saviez-vous ça? Il y a une poursuite de 5 millions qui pèse sur les épaules de deux groupes environnementaux parce qu'ils ont voulu faire respecter la loi sur la qualité de l'environnement. Ben oui, 5 millions de dollars parce qu'ils ont voulu faire respecter la loi. Il y a des gens qui dorment au gaz, ça semble clair. Pour nous en parler, André Bellil de l'AQLPA, lui-même poursuivi. Bien sûr, on va terminer avec nos coups de cœur, coups de masse et au calendrier cette semaine. Encore une fois, plein de belles activités en environnement. Question de se tenir informé. Sofiane Legendre au micro, en compagnie de l'équipe magique. Nicolas Mainville et Nicolas Milo, chacun avec leur chapeau. J'espère que vous allez bien.
Extrêmement bien. Extrêmement bien.
Oh, je sens la pression qui se retient ici. Comme à l'habitude, on va commencer avec la section humeur. Donc, on commence d'entrée de jeu par un coup de gueule ou un coup de cœur, un coup de masse ou un coup de cœur. Comme on le disait, comme je le disais en début d'émission, quelques bonnes raisons de s'insurger. Nicolas Mainville, un dossier qui te fait littéralement défriser les cheveux. Le veto de l'industrie minière, tu nous parlais d'un programme qui s'appelle Click and Claim, et toi, ça te met hors de toi.
Mais en fait, j'ai été inspiré par Louis-Gilles Francaire, sacré Louis-Gilles, qui nous a sorti un dossier vendredi passé dans Le Devoir sur justement la forêt boréale et à quel point c'est un terrain miné. Vous savez que les mines au Québec ont vraiment le dernier mot sur le grand dossier des aires protégées. J'ai la chance de travailler sur ce dossier-là depuis un petit bout de temps. Et puis, on se rend compte que l'industrie minière a vraiment le veto inconditionnel, puisque au Québec, on est fiers d'être une terre du free mining, comme on appelle. On a même M. Corbeil, notre ministre des Ressources naturelles, qui est allé se pavaner à l'international pour dire que l'ensemble du territoire québécois, en fait, à peu près 96% du territoire québécois, est alloué ou potentiellement exploitable à l'industrie minière. Et la façon que ça se fait au Québec, eh bien, c'est par ce merveilleux programme du click and claim, c'est-à-dire qu'on va sur Internet et puis on peut claimer, on peut réclamer un titre minier partout au Québec, même sur des terres privées dans certains cas, pour en faire potentiellement l'exploitation. Donc, ça commence par des périodes d'exploration. Donc, un claim, c'est environ un hectare de forêt, donc 100 mètres par 100 mètres, ben, un hectare de territoire, pas nécessairement de la forêt dessus. Et puis, donc 100 mètres par 100 mètres, et puis on parle environ 25$ de l'hectare, et puis on achète ça si on est une multinationale et qu'on est intéressé, puis on a entendu parler par exemple d'une zone intéressante point de vue exploitation orifère. Donc, on sait qu'il y a une faille d'or dans ce coin-là. Donc, on va aller cliquer le territoire et puis on va acheter littéralement le territoire pour par année, pour chaque année, en fait, on va s'assurer d'avoir le titre minier qui nous appartient jusqu'à concurrence de 4 ans. Donc, on est obligé d'investir de l'argent sur le territoire pour réclamer notre claim, si on veut dire. Et puis, si on n'a pas investi d'argent après 4 ans, eh bien, on perd notre titre et puis le territoire revient à l'État. Vous comprenez?
Puis ces investissements-là, c'est des investissements substantiels, je m'excuse, ou c'est dérisoire?
Non, c'est en fait, il y a beaucoup d'argent qui se négocie. Il faut comprendre que la superficie du Québec qui est claimée en ce moment est assez importante. Et
qui est réclamée ou disponible pour réclamation?
Bien, disponible, c'est à peu près 96% du territoire. Donc, il faut comprendre que c'est immense. On parle d'environ 1 700 000 km² qu'on a au Québec. Donc, imaginez la quantité de territoire disponible à l'industrie. Mais cette industrie-là a le dernier mot, et c'est là qui rentre le point de vue humeur de cette semaine, c'est qu'on est en grand combat en ce moment pour créer des aires protégées au Québec. Vous savez qu'on est extrêmement en retard dans ce dossier-là, environ 3,4% du territoire qui est protégé contre toute exploitation industrielle, donc minière, forestière et hydroélectrique, 3,4% comparé à 11% en Ontario, comparé à 14% au BC, donc c'est évidemment assez désastreux comme retard. Ce qu'on est en train de se rendre compte, et c'est M. Desjardins qui en a déjà parlé dans les médias dernièrement, c'est que l'industrie minière a vraiment le veto sur les projets d'air protégé. Donc, si une population dit « Ah, moi, j'ai une forêt exceptionnelle dans mon arrière-cour que j'aimerais protéger. J'ai, par exemple, 100 km² de forêt boréale incroyable qui devrait être protégée. » Fait une proposition au gouvernement. Le ministère de l'Environnement, bon, développement durable, fait des analyses, montre ça au ministère des Ressources naturelles et rendu au ministère des Ressources naturelles, ce qu'on constate, c'est que l'industrie minière a pas le potentiel d'aller claimer le territoire avant même que le projet de la protéger soit déposé et va finalement imposer un veto constamment pour s'assurer qu'il n'y a aucun territoire qui est bloqué à l'industrie pour ne pas perdre ce potentiel d'exploitation et d'exploration.
Donc les seuls territoires qui ne peuvent pas être réclamés, c'est ceux qui sont déjà notés zones protégées.
Exactement, où est-ce qu'on sait qu'il n'y a aucun intérêt pour l'industrie minière. Et puis, c'est incroyable comment on se rend compte que les aires protégées qui sont projetées en ce moment ont été forgées selon l'intérêt de l'industrie minière. C'est sûr que l'industrie forestière a aussi son grand mot à dire, et puis ça, on en a entendu parler depuis quelques années, mais c'est clair que l'industrie minière a tout le temps été mise de côté, n'a jamais été pointée du doigt, et on se rend compte que c'est vraiment la mafia environnementale du Québec, où est-ce qu'on va vraiment aller s'infiltrer dans les réseaux, tant au ministère des Ressources naturelles, que dans d'autres ministères pour s'assurer que la mine a le dernier mot et l'air protégé n'a pas sa place pour l'industrie minière.
Mais on s'imagine que c'est problématique aussi parce que l'industrie minière est souvent polluante. Par contre, il faudrait savoir justement quel est l'état des lieux. Est-ce que c'est aussi des compagnies d'ici? Est-ce que c'est des compagnies étrangères? Est-ce que ça met en jeu justement nos capacités de protection de nos écosystèmes? Probablement oui.
C'est des gros dossiers, puis c'est clair qu'il y a plusieurs impacts environnementaux à l'exploitation minière. Il faut aussi comprendre que explorer et exploiter une mine, il n'y a rien de durable là-dedans. Une fois que tu as extrait le minerai, la mine a une espérance de vie de quoi? 15, 10, 12, 25 ans maximum. Et puis après ça, ciao, bye, merci, la communauté est vouée à changer de territoire.
Et encore une belle vision à long terme. Voilà. Au retour, on vous parle de la gestion intégrée en Alberta. Ça a l'air intéressant. Retour à Delirium Environnemental, le magazine d'information en environnement. Je vous rappelle que Delirium Environnemental, c'est d'abord rendu possible par une équipe magique, Nicolas Mainville et Nicolas Milo, qui sont en studio aujourd'hui avec moi, Sofiane Legendre. À la mise en onde, Claudie Théberge, merci beaucoup d'être là avec nous. Le site Internet fabuleux, site Internet où est-ce que vous allez trouver une foule de ressources, c'est toujours au www.radiodelirium.net. Donc, on poursuit sur la question de l'industrie minière. Un exemple concret, justement, de tout ça, de ce dont tu nous parlais, Nicolas Mainville, c'est celui des monts Otis. D'abord, peut-être situer les auditeurs et l'animatrice pour nous dire où sont les monts Otis.
Ben, les monts Otis, c'est pas compliqué, c'est vraiment le centre du Québec. On est carrément à 300 km au nord de Chibougamau. Donc, si vous faites si vous mettez dans l'une, là, puis regardez le Québec, là, c'est vraiment dans le milieu. Il y a le grand lac Mistassini, qui est un immense bassin naturel, et le lac Albanel juste à côté. Bon, c'est toute cette région-là, c'est vraiment dans le centre. Et puis, ben, les monts Otis, vous savez que, bon, ça fait à peu près 6-7 ans qu'on a découvert le potentiel diamantaire de cette région. Puis ça, c'est vraiment un cas précis, un excellent exemple d'à quel point le potentiel minier va influencer les aires protégées. Parce que vous savez qu'il y a un projet de parc dans les monts Otiche. En fait, c'est le projet de parc, comment qu'on l'appelle exactement, Albanel-Témiscamie-Otiche. Exactement, Albanel-Témiscamie-Otiche.
Personne ne va aller là, ils ne seront même pas capables de dire le don.
C'est pas vendeur,
le marketing. Ben, c'est ça, le marketing n'est pas passé encore, mais c'est l'appui de la communauté Cree Mistassini. Ce qu'on a annoncé la semaine passée, le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs a déclaré des audiences publiques pour le 14 et 15 janvier prochain à Chibougamau pour justement... Oh, j'ai vu un petit quelque chose dans mon oreille. C'est correct. C'est le ministère de l'Environnement qui nous écoute. Et donc, ces audiences publiques pour justement...
À Chibougamau, il y a trois personnes qui vont pouvoir se déplacer.
Non, en fait, il y a un excellent intérêt de la population là-bas, puisque c'est vraiment un des moteurs de développement économique, autre que l'exploitation des ressources naturelles. C'est bel et bien l'écotourisme, et c'est extrêmement prometteur. Et puis, la communauté Cree appuie ce projet-là. Mais il faut comprendre que les limites du parc comme tel, les premières limites qui ont été lancées par le gouvernement, on parle d'environ 11 000 km², c'est immense, mais c'est très profilé comme superficie. En fait, ça a été fait sur le long du nord au sud. C'est pas nécessairement intéressant point de vue conservation de la biodiversité, mais bon, c'est un grand territoire. Et puis, on sait que les monts Otiche ont un potentiel diamantaire extrêmement élevé. Et puis, c'est là que je glisse sur ma nouvelle. Ça, c'était comme l'introduction. On a une multinationale qui est extrêmement intéressée au potentiel diamantaire. Desmond-Otiche, qui a déclaré la semaine passée le potentiel d'argent monétaire qui serait capable de faire avec ça. En fait, on estime environ 18 millions de carats de diamants, le potentiel au nord de Chibougamau, donc les Monts-Otiche comme tels. Et puis cette compagnie minière qui a déclaré ça, c'est Ashton Mining, qui semble vraiment se profiler comme étant la plus grande compétitrice pour le marché du diamant dans cette région-là. Mais il faut comprendre que par le système du click and claim que j'expliquais juste auparavant, une très grande portion des monts Otiche ont été claimés par cette compagnie-là et certaines autres compagnies pour aller voir le potentiel.
Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de faire les deux? Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de développer l'écotourisme et de aussi vérifier, faire de l'exploitation diamantaire?
Je comprends pas.
Mais si, par exemple, on peut aller chercher des diamants, mais moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi c'est des entreprises privées qui vident le sous-sol québécois. C'est la première chose, mais je suis peut-être un petit peu socialiste dans ma tête, là. Mais c'est pas grave. Mais tout ça pour dire, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire les deux? Est-ce qu'on peut pas développer l'écotourisme et garder une portion pour faire l'exploitation diamantaire?
Tout à fait. Excuse-moi, j'avais mal compris ta question. Oui, c'est ça. Hein. Dans le fond, si on est capable de faire des compromis, je pense que ça va être la meilleure solution. C'est clair que c'est un développement économique que de faire l'exploitation minière. Les régions en veulent, puis surtout dans cette région. Là, s'il y a un grand potentiel, faut comprendre que le diamant comme tel est une très haute valeur sur le marché international. Mais la place de l'écotourisme devrait prévaloir, selon moi, puisqu'on est rendu dans une situation où est-ce qu'on est extrêmement en retard, point de vue développement de l'écotourisme et point de vue respect des ressources naturelles et respect des écosystèmes, de l'intégrité écologique. Si, comme on l'a fait pendant les 100 dernières années, l'exploitation industrielle des ressources prévaut sur tout le reste, ben écoutez, on se retrouve avec des problèmes majeurs. On le voit pour la forêt. Et puis on pourra le voir éventuellement pour la contamination des écosystèmes et tout le reste qui vient avec l'exploitation des ressources minières.
Donc un dossier qui sera à suivre, bien entendu, qui devrait connaître des développements, notamment 14 et 15 janvier. Nicolas Mainville, je ne suis même pas inquiète, tu nous garderas informés de cet important dossier. On enchaîne sur ce qu'eux ont décidé de faire en Alberta, vous savez, cette riche province canadienne, où est-ce qu'on exploite des sables bitumineux. On a mis de l'avant ce qu'on appelle la gestion intégrée. Ah, quelle joyeuse idée.
C'est là qu'on voit toute la farce que cette expression peut prendre. Tantôt, Nicolette a soulevé un point qui est intéressant. Est-ce que, dans le fond, on peut avoir une prospection minière qui est durable? On sait que le concept de gestion intégrée de l'environnement repose sur la définition de développement durable, bon, qui traîne un peu partout dans différents ministères depuis des années.
En deux mots, la gestion intégrée, c'est donc inviter toutes les parties prenantes autour d'une table pour discuter de la gestion des ressources.
Ça repose sur deux choses principales. Premièrement, la concertation des usagers d'un milieu, d'un territoire ou d'une ressource. Et deuxièmement, la connaissance de l'écosystème qui supporte cette ressource-là, ou bref, où on peut aller chercher cette ressource-là. Et là, l'Alberta, donc le gouvernement de l'Alberta, eh bien, il va de l'avant avec ce qu'on appelle dans un article qui paraissait dans la presse cette semaine, et encore là, on voit à quel point il faut lire les articles jusqu'au bout et voir que les auteurs de cet article-là dirigent la Cambridge Strategies, qui est un groupe conseil en matière d'environnement en Alberta. Et les autres qui parlent d'une fascinante nouvelle politique albertaine qui prône, dans le fond, la gestion intégrée de l'exploitation des sables bitumineux. Vous savez, l'exploitation des sables bitumineux, c'est une des exploitations pétrolières les plus polluantes au monde, parce qu'on a besoin entre autres d'une quantité d'eau phénoménale pour aller extraire cette quantité de pétrole-là de ces sables bitumineux-là. Si jamais vous avez Internet chez vous, allez voir Google Maps ou Google Earth, le nord d'Alberta, on le voit à l'œil nu sur ces logiciels-là, les ravages qu'a fait l'exploitation des sables bitumineux dans le nord de la Saskatchewan et de l'Alberta. Et là, ce qu'on nous dit, c'est qu'on va avoir une nouvelle politique qui intègre la foresterie, la pollution de l'eau, les usages récréatifs, le tourisme, blablabla, à cette exploitation-là, mais ce qu'on nous dit pas dans cet article-là, et ce qui est pourtant transparent dans cette idée-là, c'est qu'il y a une chose, par exemple, qui va de soi dans cette politique-là, c'est qu'on doit faire de l'exploitation de sable bitumineux. Donc, on intègre le reste. Où on intègre au reste les conséquences de l'exploitation des sables bitumineux. Donc là, on parle de sacrifier
temps,
des territoires.
En même temps, est-ce que ça te surprend, considérant que l'Alberta est la plus riche province canadienne à cause de cette exploitation-là?
Ça me surprend absolument pas. Puis de toute façon, je pense que n'importe quel gouvernement qui est présentement à l'œuvre au Canada, aux États-Unis, dans l'Amérique du Nord, va proposer des stratégies qu'on va dire intégrées de cet ordre-là. C'est-à-dire qu'on privilégie une façon de voir le territoire. Par exemple, la gestion intégrée de la forêt. Le rapport Coulombe nous dit qu'on doit faire de la gestion écosystémique de la forêt. Mais le rapport Coulombe ne remettra jamais en question l'idée qu'on doit ressortir des arbres de notre forêt pour les vendre en planches ou en papier. Donc, on parle de gestion intégrée, mais à saveur très, très...
intéressée.
Moi, je dirais que c'est de la prostitution du terme, parce qu'on, dans le fond, on le galvaude à toutes les sources, dépendamment de quel est l'intérêt primordial qui est déjà installé dans une région. Et on dit qu'autour de cet intérêt-là, on va faire de la gestion intégrée. Mmh. Et ça, selon moi, c'est excessivement dangereux, d'autant plus qu'on s'en va pour ça dans pratiquement toutes les facettes des ressources naturelles de notre société. On fait de la gestion intégrée des pêches, on fait de la gestion intégrée de l'eau, on fait de la gestion intégrée des forêts, des ressources minières. Donc, on fait de la gestion intégrée
comme
partout.
Comme si ça donnait carte blanche et sur le modèle de développement.
Et voilà, et c'est ce qui est hyper dangereux. Surtout quand on voit, là, c'est, je veux dire, c'est clair, l'Alberta, les compagnies pétrolières, on sait que ces deux groupes-là couchent déjà ensemble. Et là, ben, on couche ensemble dans un droit qui s'appelle la gestion intégrée. Mmh. Mais on pourrait très bien faire coucher l'industrie. Très confortable. Bref, faut faire attention. Et mon Dieu, on présente ces trucs-là dans la presse dans ce cas-ci, dimanche dernier, comme la voie d'avenir. Mais lisons entre les lignes, puis soyons conscients que pour ce qui est de la protection de l'environnement, on est loin de la panacée.
Ah, on est loin de la panacée. C'est pas le seul dossier. On pourra au retour parler de Tembec, qui, malgré de belles paroles sur leur gestion environnementale, fait aussi de grands ravages qui leur coûtent très, très cher. On continue la revue de presse, revue de l'actualité. On vous parle, vous savez, on parle beaucoup d'exploitation des ressources, des ressources du sous-sol, de la planète, de la Terre. Ici, au Québec, il y a des choses pas catholiques qui sont en train de se passer dans le domaine de l'eau. Et on est en train de réagir d'une drôle de façon, j'ai l'impression. Et vous pourrez m'expliquer, messieurs, si j'ai raison de trouver ça bizarre ou pas. On parle beaucoup, on parle pas du tout d'exploitation d'eau au Québec. Et pourtant, on est en train de vendre à qui mieux les ressources hydriques du Québec à des compagnies étrangères.
Non, on les vend pas, on les donne.
On les donne, en fait, pour des poignées de peanuts, n'importe quoi. Et là, la grosse solution qu'on met de l'avant, justement, c'est de demander des redevances à ces compagnies-là.
Voilà, ça fait longtemps que des groupes, entre autres comme Au Secours, militent en faveur d'un système de redevances intelligent sur la question de l'eau. On vous remet dans le contexte. Présentement, au Québec, une compagnie, par exemple, on va prendre un cas qui est d'actualité, le cas d'Eau Vive Aricana, qui est à Saint-Mathieu, en Abitibi. On est sur un escarre qui est très, très riche d'une eau de source qui est d'une qualité incomparable, donc quelque chose de très alléchant pour les multinationales qui embouteillent l'eau. Eh bien, on a une compagnie, Eau Vive Aricana, qui est subventionnée par Morgan & Stanley, une banque états-unienne, donc qui va faire les profits de cette exploitation-là, qui vient, dans le fond, poser un robinet sur cette source d'eau-là, met l'eau dans des bouteilles, et là, on va la vendre en Chine, parce qu'on sait que la Chine a besoin d'eau, donc on envoie ça au bout du monde. Donc, imaginez le profit qu'on va faire sur une eau qui nous coûte pratiquement rien, parce que ces compagnies-là, ici au Québec, le seul argent qu'elles nous paient pour ces activités-là, c'est les taxes qu'elles vont payer à la municipalité où se trouve l'activité.
Donc elles
pompent l'eau gratuitement. Il n'y a pas un système de redevance tel quel pour dire vous pompez tant de litres, vous payez, par exemple, je ne sais pas moi, 3 cents du litre.
Comme c'est le cas sur le pétrole, sur les mines et autres ressources naturelles, habituellement.
Oui, dans le fond, c'est une des rares ressources naturelles au Québec qui n'est pas assujettie à un système de redevance. Et le cas à Aricana, qui a fait la manchette cet automne, a poussé beaucoup au niveau du ministère de l'Environnement, Développement durable et des parcs du Québec pour qu'on dise, bon, mais qu'est-ce qu'on fait? La politique de l'eau date de 2002. Il n'y a rien qui a été fait en ce sens-là. Pourtant, on laisse entrevoir une certaine lumière dans ce dossier-là. Et là, on nous promet du côté du ministère de l'Environnement, Développement durable, Faune et des parcs. Non, il n'y a pas faune, je pense.
Désolé. Non, c'est faune.
Que 2006 sera l'année où on établira ce fameux système de redevance sur l'eau.
Qui, on s'en doute, pose plusieurs défis. Parce que, notamment, il n'y a pas seulement ces compagnies étrangères et les compagnies québécoises qui viennent pomper, mais il y a également plein d'autres utilisateurs de la ressource en eau.
C'est ça qui donne des excuses au ministère que j'ai nommé tout à l'heure. mais qui, en même temps, bon, on doit se poser des questions face à ça, c'est que les compagnies d'embouteillage qui font, dans le fond, juste prendre de l'eau et l'exporter, c'est pas elles qui, je dirais, consomment le plus de cette eau-là. Il y a des compagnies ou des industries qui sont beaucoup plus qui font beaucoup plus pression sur la ressource eau au Québec. On peut penser entre autres à toutes les compagnies de jus ou de bière, de liqueur ou peu importe, qui utilisent l'eau comme élément de confection de leurs produits, mm-hmm. mais qui l'exploitent tout autant. Je veux dire, si on fait une bouteille de bière puis qu'on l'exporte aux États-Unis, on vient d'exporter 341 millilitres d'eau.
Mm-hmm. Ça a pris 25 litres pour faire une bière. En plus
parce qu'il a fallu.
Puis vous buvez encore de la bière, les gars.
Non, ouais, c'est bon.
C'est pas chaud, mais on la boit d'ici, en tout cas. Mais bien, il reste donc que ça. Il y a aussi toute la question, par exemple, de l'industrie maraîchère qui fait pousser des légumes. Les légumes contiennent de l'eau. Si on exporte ces légumes-là ailleurs, on vient d'exporter notre eau. Mm. Donc, la question des redevances vient rapidement qu'à se complexifier. Oui. En même temps,
sans
moi personnellement,
ils exportent l'eau, mais en tout cas, ils l'utilisent, puis c'est vraiment, ça sert à faire du profit par la suite. Sans quoi, ils pourraient pas faire ce profit-là.
Tout à fait. Et présentement, ce profit, ben cette partie de profit-là qui est due à l'eau, eh bien, on ne la charge pas. On ne lui associe pas un coût au gouvernement du Québec. Et donc, nous, en termes de société québécoise qui sommes riches en eau, qui est riche en eau, eh bien, on ne retire aucun bénéfice de cette réalité-là. Mmh. Et là, donc là, on y va avec, dans le fond, plusieurs plans qui disent, bon, ben jusqu'où, est-ce que, par exemple, on laisse seulement aux industries une facette de redevance ou est-ce qu'on l'ouvre à tout le monde? Donc là, ça rentre en question le coût de l'eau pour les particuliers, pour monsieur, madame, tout le monde. Et là, c'est qu'on rentre dans un débat que, je pense, le gouvernement, il n'y a aucun gouvernement qui veut aborder
non.
ce débat-là.
D'une
mais on
part,
doit le faire.
D'autre part, en quoi est-ce que ça assure la protection de la ressource? Parce que c'est pas... Et il voilà. y a des compagnies qui vont toujours être prêtes à payer plus pour venir puiser notre eau, puis la vendre encore plus cher en disant, nous, on la paye, fait qu'on vous la fait payer le gros prix. Sauf que d'un autre côté, en quoi ça assure la protection des écosystèmes?
Et c'est pour ça qu'en début de nouvelle, je vous ai dit une façon intelligente de faire un système de redevance sur l'eau, parce que présentement, on sait que les jeunes libéraux, entre autres, ont proposé une nationalisation de l'eau. Et là, plusieurs personnes ont vu ça comme la solution. On se souvient d'Hydro-Québec, on a nationalisé l'électricité, on en a fait quelque chose qui peut-être socialement était mieux que laisser tout au privé. Mm-hmm. Et on peut en être fier, mais c'est pas parce qu'on nationalise quelque chose qu'on est intelligent. Si on nationalise, mais qu'on exporte en vidant nos nappes. Et on sait qu'au Québec, de plus en plus, on a des exemples qui surgissent à gauche et à droite de lieux où on est en pénurie d'eau. Par exemple, Franklin en Montérégie, où est-ce qu'il y a un verger qui fait du jus de pomme, qui a vidé une nappe phréatique. Il y a des personnes qui avaient leur puits personnel sur ces lieux-là. Parce qu'on sait que le problème, c'est que l'eau, elle fait pas de différence. Hein. S'il y a 20 personnes au-dessus d'un puits et qu'il y en a un qui puise tout, eh bien, on n'est pas avancé. Et ça met dans le fond la dernière, je pense, le dernier problème à cette problématique-là, c'est qu'il va falloir au Québec clarifier le statut de l'eau, le statut légal de l'eau. On sait qu'au Québec, l'eau de surface est une chose commune, donc qui appartient à tout le monde et qui est gérée de façon bien commune. Mais l'eau souterraine est légiférée comme un bien souterrain. Donc, celui qui possède un pied de carré de terrain peut aller puiser ce qui est en dessous de son pied de carré parce que c'est à lui. Sauf que l'eau ne fait pas de différence entre les propriétaires fonciers.
Décidément, un dossier qui sera à suivre, puis en souhaitant justement qu'il y ait un système intelligent, pas et seulement voilà. de redevance, mais bien de protection. Et vraiment une logique de gestion.
Et qui voit à long terme, surtout.
Parlons-en de la protection de l'eau.
Bonne chance, protection de l'eau. Un dossier assez hallucinant. Tembec est mis à l'amende pour mauvais traitement de la ressource.
Ah oui, pour contamination assez massive. C'est en fait 4 usines qui appartiennent à Tembec, à Témiscamingue, ville de Témiscamingue. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, en 2001, il y avait le Sierra Legal Defense Fund qui avait sorti un gros dossier sur les grandes papetières au Canada qui étaient reconnues comme des briseurs de loi, point de vue qualité de l'eau et libération de toxines dans l'environnement. Et puis le Québec avait été pointé du doigt parce qu'il y avait au-dessus de 1700 infractions à la loi sur la qualité de l'environnement. Et puis, Tembec qui se voit mériter grâce à M. Mulcair qui a mis ses culottes et sa ceinture fléchée, parce qu'il l'a vraiment mis, sa culotte, cette fois-ci. Une amende de 1 million de dollars justement pour ne pas avoir respecté de façon chronique les normes de rejet au cours d'eau entre 2001 et 2003. 1 million de dollars, c'est la plus grosse, la plus importante amende imposée à un promoteur en vertu de la loi québécoise sur la qualité de l'environnement. Donc, c'est quand même assez impressionnant. En fait, faut dire que Tembec n'avait pas un dossier très, très reluisant. Il avait déjà enfreint la loi pendant 24 mois entre 1998 et 2001. Et puis cette fois-ci, c'est à 20 reprises en 2002-2003, février 2002 et février 2003, qui aurait libéré des doses létales pour la faune aquatique dans les rivières des alentours. Donc, un dossier très peu reluisant pour cette compagnie qui fait certains efforts pour se faire certifier de façon environnementale pour son exploitation forestière.
Du travail.
Et qui est une des rares au Québec à faire autant d'efforts que ça.
C'est la seule qui a la certification Forest Stewardship Council. C'est extrêmement triste, mais en même temps, je veux dire, preuve de laxisme assez incroyable de la part de la compagnie qui, malgré les avertissements fréquents et...
n'a pas agi.
Exactement. Donc, mauvaise foi, un blâme pour Tembec. Il reviendra au coup de masse à la fin de l'émission.
Un blâme pour Tembec.